des ethnologues. Voilà, on est très heureux de reprendre enfin, après quasiment un an et demi d'arrêt. Donc voilà, on se retrouve à la fenêtre où la dernière séance du bistrot en présentiel en fait remonte au 4 février 2020 où on accueillait Emir Mayedine qui était venu nous parler du pentecôtisme en Suède. Donc alors l'édito, j'ai regardé dans nos archives, l'édito de cette saison s'intitulait l'ethnologue bouleversé. C'était un peu prophétique si on peut dire d'une certaine manière. Hein, ce bouleversement n'a pas été réservé aux seuls ethnologues. Et les ethnologues ont dû aussi durant cette période, cette longue période de crise, faire preuve plutôt de sang-froid pour rester à l'écoute des transformations profondes et qu'elles soient visibles ou invisibles d'ailleurs, qui ont été engendrées par la pandémie de la Covid-19. Donc entre cette dernière séance de février 2020 et aujourd'hui, s'est opéré donc un basculement qui se traduit notamment dans le fait que nous ayons décidé de maintenir des séances au double format présentiel et distanciel, hein, malgré les difficultés, puisque c'est une première pour nous de réaliser dans ces conditions-là. Donc on s'excuse par ailleurs auprès des personnes qui sont connectées avec nous pour les éventuelles échos, inconvenances. Mais voilà, on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure. Donc en fait, le but, c'est aussi de permettre à toutes les personnes qui nous ont suivies à partir du premier confinement de mars 2020, de continuer à se nourrir des menus que nous concoctons depuis maintenant 7 ans, avec Marie-Ange Lasmène, Godefroy Lansade, Anne Varichon, Éric Pereira, Jennifer Yegui-Cheyan, Marion Lièvre, Anaïs Vaillant et quelques autres aficionados du bistrot des ethnologues. Donc ce soir, nous ouvrons la 28e édition du bistrot des ethnologues et en beauté avec l'anthropologue Frédéric Keck qui était déjà venu au bistrot des ethnologues en janvier 2012 pour présenter son ouvrage Un monde grippé, séance que nous avions d'ailleurs repartagée sur notre site pendant le premier confinement pour s'extraire un peu du décompte journalier des morts aussi qui faisait le fil de l'actualité et nous permettre de prendre le recul nécessaire pour continuer à penser ce qui nous arrive. Donc c'était donc pour nous on ne peut plus évident de faire cette réouverture du bistrot en votre compagnie, Frédéric Keck. Et merci infiniment d'avoir refait le voyage jusqu'à nous, car on ne doutera pas que vous ayez été extrêmement sollicité durant ces deux dernières années, en tout cas. Ouais. Voilà. Alors, ce sujet pour vous n'est pas nouveau. Donc, après la crise de la vache folle, vous avez réalisé un terrain au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, où vous avez été un observateur privilégié de la mise en place des dispositifs de surveillance des zoonoses, donc les maladies qui transitent entre l'animal et l'homme. Et avant cela, vous aviez soutenu en 2003 une thèse de philosophie sur la notion de mentalité primitive, telle qu'elle fut élaborée par l'anthropologue français de la fin du XIXe siècle, Lucien Lévy-Brulle. Alors, ce sujet de thèse vous a conduit à vous intéresser de plus près aux mécanismes collectifs de perception et de décryptage de l'invisible. Hein? Donc, la pensée de Lévy-Brulle vous conduisait en 2005 à vous interroger sur la bonne façon de décrire la part d'invisible qui, je vous cite, dédouble l'action humaine entre ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle doit faire, avec la dimension de risque et d'invention que suppose toute action libre, sans recourir aux seules causalités naturelles, mais sans non plus se donner l'intervention magique d'une causalité surnaturelle. Donc là, je vous cite dans un article qui était paru en 2005. Donc les circulations de virus entre animaux et humains relèvent de cette part d'invisible à travers laquelle les sociétés humaines ont pu projeter nombre de croyances et d'interprétations ou remèdes en tout genre au fil des siècles. Or, vous nous rappelez avec justesse qu'il y a de multiples manières de percevoir et de composer avec les mondes non humains, à partir de la marge de manœuvre qu'on leur accorde dans nos propres univers, ou de l'étanchéité qu'on cherche à élaborer ou à entretenir entre le monde vivant des humains et celui des non humains. C'est donc avec les biologistes, les immunologistes et autres scientifiques durs que vous avez exploré ces mondes, en restant attentif à la manière dont ces chercheurs perçoivent ces environnements et travaillent avec des cellules, particules virales, et expérimente avec le vivant pour mieux le contrôler. Donc, à la lecture de votre dernier ouvrage, « Les sentinelles des pandémies », que vous nous présentez ce soir, on peut avoir quelques sueurs froides lorsqu'on découvre en vous lisant toutes les manipulations de virus dans les laboratoires qui nous confrontent au risque et à la mort. Tout cela à partir d'êtres avec qui nous cohabitons de façon ordinaire, hein, certains plus discrets que d'autres, hein, des mouches, des moustiques, des souris, des oiseaux, toujours difficiles à contrôler. Alors bien sûr, je vais rappeler ici que vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, mais je pense qu'il est tout aussi intéressant de rappeler qu'en plus de vous situer dans la lignée de Claude Lévi-Strauss, vous avez également hérité des centres d'intérêt et enseignement transmis par votre père, qui fut professeur de toxicologie à l'école vétérinaire de Lyon. Ainsi, après avoir suivi des virologues qui exercent dans des laboratoires australiens, asiatiques, étudié la façon dont Hong Kong, Taïwan et Singapour ont fait face aux zoonoses donc entre 2007 et 2013, vous avez révélé que, donc je vous cite, « chaque transformation que l'espèce humaine impose à son environnement est suivie d'une maladie animale qui signale cette transformation ». C'est pourquoi vous évoquez ces oiseaux porteurs de virus comme des sentinelles. Je vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter votre dernier ouvrage. Merci.
Merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir de revenir à Montpellier et en particulier au Bistrot des ethnologues. Donc, presque 10 ans après la présentation que j'avais faite de mon livre « Un monde grippé », je garde un très bon souvenir de effectivement, cette rencontre qui avait eu lieu donc, à un bar qui était juste à côté...
Le Black Sheep,
voilà, juste à côté de la cathédrale de Montpellier. Merci aussi pour l'introduction que vous avez faite qui situe ce que je vais présenter maintenant dans un cadre plus large, qui est effectivement le travail que j'ai fait sur Lucien Lévi-Brul et les différentes filiations intellectuelles et réelles que j'ai assumées. Et effectivement, enfin, Lucien Lévi-Brul est connu comme... l'ethnologue de la mentalité primitive, des croyances mystiques dans les entités invisibles, mais il était aussi le père d'un des chercheurs de l'Institut Pasteur qui travaillait sur justement des virus transmissibles des oiseaux aux humains. J'ai découvert ça dans un travail d'archives que j'ai fait à l'Institut Pasteur. Il était aussi le père d'un ethnologue du droit plus connu qui s'appelle Henri Lévi-Brul, mais son fils aîné Marcel Lévi-Brul, qui est mort dans des conditions assez tragiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Faisait donc des recherches sur les virus qui se transmettaient des oiseaux aux humains. Donc l'hypothèse un peu acrobatique que j'avais faite, qu'on pouvait reprendre l'énoncé de Lucien Lévi-Brul, les boros sont des araras, qui était vraiment dédié à l'ethnologie des sociétés amazoniennes, pour l'appliquer à mon travail sur la grippe aviaire en Asie, et la façon dont la grippe aviaire nous rendait un peu, proches et distants des oiseaux, n'était pas complètement dénué de fondement. Alors ça, c'est pour répondre un peu à votre introduction. On m'a demandé donc de présenter mon livre dans un discours introductif d'une quarantaine de minutes. Et je vais essayer de ne pas le faire trop long pour qu'on ait vraiment le temps de discuter. Mais disons que ça permettra de présenter le matériau que j'ai rassemblé dans le livre. Puisque, donc, effectivement, après... une thèse de philosophie sur Lucien Lévi-Brul, une enquête de terrain sur la grippe aviaire à Hong Kong entre 2005 et 2010, donc juste avant la pandémie de H1N1 de 2009. J'ai mené donc des recherches avec les observateurs d'oiseaux à Taïwan et Singapour, un peu en parallèle de celles que j'avais faites avec les virologues. J'ai aussi dirigé des recherches au musée du Quai Branly, ce qui m'a amené à poser des questions aussi sur les infrastructures de la recherche virologique, les formes de collecte qui permettent d'anticiper l'avenir. Et donc tous ces différents travaux m'ont amené à intervenir dans un champ de recherche qui a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années, qui est celui de l'anthropologie de la santé globale. Et disons que mon intervention s'inscrit dans un dialogue avec des chercheurs américains qui étudient la généalogie des normes de préparation aux pandémies comme une des formes de la santé globale. Il y en a d'autres, hein. La santé globale, c'est aussi par exemple l'humanitaire, la fondation Bill and Melinda Gates, quand elle prévoit des kits pour intervenir dans des camps de réfugiés ou pour soigner le sida en Afrique, c'est aussi de la santé globale. Mais une autre forme de la santé globale, c'est des formes d'anticipation d'épidémies dans des cadres de sécurité internationale. Et disons que dans ce champ-là, moi j'ai apporté effectivement un matériau qui est comment la préparation aux pandémies s'est mise en place dans ces pays aux marges de la Chine, que sont Hong Kong, Taïwan et Singapour. Donc ce que je voudrais présenter, c'est ce champ de recherche sur la préparation aux pandémies. Une technique très particulière de préparation qui est la Sentinelle, à laquelle j'ai consacré la plus grosse partie de ma réflexion, mais aussi d'autres techniques de préparation qui composent un peu les chapitres du livre, hein, puisque c'est un livre assez théorique, hein, qui est composé de deux parties. Une partie plus réflexive sur quels sont les objets et les méthodes que je me suis donné pour aborder les pandémies, et ensuite donc trois techniques de préparation en pandémie, les sentinelles, les simulations et le stockage. Et ça, je vais le présenter dans cet exposé. Alors, pourquoi ça ne bouge pas ? Voilà, c'est bon. Alors, pour effectivement prendre du recul par rapport à la séquence que nous vivons, hein, depuis, disons, décembre 2019 et l'émergence d'un coronavirus venu d'une chauve-souris dans le sud de la Chine, il faut replacer la mobilisation des autorités sanitaires internationales dans le cadre des recherches menées au cours des 40 dernières années autour de ce qu'on appelle les maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire des pathogènes qui viennent, alors, surtout des animaux, mais qui peuvent aussi être dus à des résistances aux antibiotiques, mais en tout cas des pathogènes pour lesquels les humains n'ont pas d'immunité, contrairement à des maladies plus classiques pour lesquelles nous avons développé des vaccins ou des traitements. Et donc, c'est des pathogènes dont il faut anticiper l'émergence pour en limiter les effets catastrophiques. Et alors, j'ai parlé tout à l'heure de justement les recherches qui étaient menées à l'Institut Pasteur dès les années 30, hein, sur les virus qui se transmettaient des poules aux humains. Donc, depuis Pasteur, on sait que les microbes passent d'une espèce à une autre et que leur comportement change quand ils passent d'une espèce à une autre. Mais c'est vraiment depuis 1976 et l'émergence d'Ebola en Afrique qu'on considère l'émergence d'un pathogène depuis ce qu'on appelle le réservoir animal comme un phénomène potentiellement catastrophique qui pourrait se transmettre à toute la planète par les voies de circulation. Et disons que c'est la double prise de conscience de l'augmentation du réservoir animal, notamment par l'élevage industriel, la déforestation, c'est-à-dire des animaux sauvages qui rentrent en contact avec des animaux domestiques et qui vont arriver dans les villes, et puis de l'autre côté, les voies de circulation de transport internationaux qui font qu'un virus circule de Kinshasa à New York pour le scénario de Ebola, ou de Wuhan ou Hong Kong à l'Europe. La maladie qui a permis de lancer cette alerte, c'était Ebola, parce que c'était un virus qui se transmettait des primates des primates humains aux primates non humains, avec une létalité de 95%, c'est-à-dire on avait 95% de chances de mourir lorsqu'on était infecté par le virus. L'avantage, c'est que du coup, on n'allait pas très loin, et donc c'est un virus qui s'est peu déplacé à l'époque, 1976, mais on a imaginé alors ce qui se passait si celui qui était infecté par Ebola réussissait à prendre un avion pour aller à New York, ou si par exemple un singe infecté par Ebola arrivait dans une animalerie à Los Angeles. C'est le scénario Outbreak d'un film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Outbreak, et d'un roman aussi qui a eu beaucoup de succès. Bon, on a élaboré tout un ensemble de scénarios pour Ebola qui ne se sont pas réalisés. À part, alors justement, l'épisode de 2018 où Ebola est passé d'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest et a quand même tué plusieurs milliers de personnes, notamment dans des pays dont l'infrastructure hospitalière était très dégradée, donc Sierra Leone, Guinée et Libéria. Mais donc, ce qui ne s'est pas passé pour Ebola, cette espèce d'extension globale d'une maladie nouvelle, s'est passé pour d'autres pathogènes. Alors, le sida, bien sûr. Même si le sida, on a mis du temps à en prendre conscience parce que c'est un rétrovirus, donc il met du temps à rentrer dans l'organisme et à perturber le système immunitaire. Et donc, il est arrivé aux États-Unis en 1981, vraiment identifié en 84. Et puis, dans les années 90, on commence à retracer son itinéraire depuis Haïti et puis l'Afrique centrale, avec des transmissions primates humains dans les années 1920 autour de Kinshasa et des réseaux de prostitution autour du commerce du caoutchouc. Donc le sida est vraiment devenu pandémique dans les années 80, mais d'une certaine façon assez lentement. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait éviter pour Ebola ou pour le sida, est-ce qu'on pourrait éviter pour les prochaines maladies ce qui s'est passé avec le sida, c'est-à-dire l'extension d'une maladie à toute la planète. Donc le sida a été véritablement déclaré pandémique. Et je rappelle, donc en 1980, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré l'éradication de la variole. C'est une des premières maladies infectieuses qui ont été éradiquées au niveau mondial par la vaccination. Et c'est un grand succès de coordination internationale. Mais la variole est justement un des seuls microbes que l'on pouvait éradiquer de l'espèce humaine parce qu'il ne se transmet pas d'une espèce animale à une autre. Il y a des formes de variole chez les singes ou chez les poulets, il y a du chickenpox ou monkeypox, mais le smallpox ne se circule qu'entre humains. Et c'est pour ça qu'il y a encore quelques échantillons de variole dans des laboratoires aux États-Unis et en Russie qui sont sous haute sécurité, parce que si la variole sortait de ces laboratoires, eh bien, nous n'aurions pas l'immunité pour y faire face. Et c'est une maladie qui a fait des ravages, si on pense à l'effondrement des sociétés amérindiennes du fait de l'arrivée de la variole au XVIe siècle. Donc voilà, l'idée c'était comment faire pour que Ebola ou d'autres virus émergents ne fassent pas ce qu'a fait le sida et comment réagir à un virus pour lequel nous n'avons pas d'immunité. Alors ça explique qu'en 1997, donc quand un virus de grippe est passé des oiseaux aux humains à Hong Kong, il y a eu une alerte assez forte, en plus dans le contexte où Hong Kong, colonie britannique, repassait sous la souveraineté chinoise. Alors, c'était un virus qui avait infecté à peu près 5000 poulets, 12 humains, parmi lesquels 8 sont morts. Donc là aussi une létalité très forte, mais le H5N1 depuis 1997 ne s'est transmis qu'à 800 personnes dans le monde et dont 500 sont mortes. Donc là aussi le taux de létalité est resté stable. En général, les taux de létalité des virus restent assez stables. Le problème c'est quand ils mutent, on l'a vu avec le Covid. Hein. Mais en tout cas voilà, grippe aviaire, c'était comme Ebola, c'était quand même un des virus les plus létaux qu'on connaissait, et ça a justifié l'abattage de centaines de millions d'oiseaux, de volailles, pour éviter qu'ils se transmettent. Et puis, cette alerte sur le H5N1 a été confirmée par le virus du SRAS en 2003, qui est très différent du virus de grippe, un virus plus gros, apparemment moins mutant, plus stable, un coronavirus, et qui passait donc des chauves-souris aux animaux dans les marchés du sud de la Chine, aux humains, et le SRAS a infecté environ 8000 personnes dans le monde, dont 800 sont mortes, donc un taux de létalité de 10%, donc plus fort que le Covid-19, hein, dont le taux de létalité est à peu près à 0,5%, hein, mais par contre beaucoup moins contagieux, parce qu'il y a eu une très forte réaction des autorités sanitaires internationales et surtout chinoises, puisque c'est un virus qui était apparu en Chine. Ensuite, donc, il y a eu la pandémie de H1N1, de la grippe porcine, qui, au lieu d'apparaître en Chine comme on l'attendait, est apparue au Mexique, et même plus précisément à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, dans des fermes industrielles de porcs. Alors, l'alerte sur le H1N1 a été jugée excessive et a mené à beaucoup de critiques sur la politique de vaccination. On se rappelle qu'en France, on a commandé 2 doses de vaccin par personne et finalement seulement 7% des personnes s'étaient vaccinées. Et le H1N1, on estime qu'il a fait moins de victimes que la grippe saisonnière. Mais pour une raison assez facile à comprendre, en fait, mais qu'on ne pouvait pas anticiper à l'époque, c'est que c'était un H1N1 assez proche du H1N1 de la grippe de 1918, qui, si vous vous en rappelez, avait tué à peu près 50 millions de personnes. Et donc, du coup, toutes les personnes qui avaient survécu à la grippe H1N1 étaient immunisées contre elle. Et le H1N1 a été remplacé par un H2N2 en 1957. Donc, toutes les personnes âgées étaient immunisées contre le H1N1. Et ça, c'est, donc ceux qui sont décédés de H1N1 étaient surtout des jeunes. Mais c'est ce qui fait qu'il y a eu moins de morts de la grippe, paradoxalement, en 2009 que les années précédentes. J'ai parlé donc d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans cette série, effectivement, l'émergence du SARS-CoV-2 n'était pas une surprise. On s'y attendait. Ce qui a été surprenant, c'est cette combinaison entre une faible létalité et une très forte contagiosité. C'est-à-dire que, justement, depuis le SRAS, on voyait que les virus de chauve-souris pouvaient passer aux humains, mais elles n'avaient pas le récepteur suffisant pour se transmettre facilement entre humains, ce qui a conduit à des hypothèses sur le fait que ce virus aurait été potentiellement manipulé en laboratoire, non pas pour en faire une arme biologique, mais en tout cas pour comprendre les conditions dans lesquelles des virus de chauve-souris peuvent se transmettre entre humains. Et on reviendra sans doute là-dessus dans la discussion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste un virus d'origine animale. On ne sait toujours pas s'il est passé par des pangolins, des chiens vivérins, enfin toutes sortes d'animaux sur les marchés chinois ou par un laboratoire dans la ville de Wuhan, mais on voit que c'est la même chaîne de transmission. Et donc voilà, moi en tant qu'anthropologue, je m'intéresse à la façon dont ces diagrammes de relations entre humains et animaux donnent lieu à des dispositifs de sécurité qui vont avoir un impact sur la vie de ceux qui vivent avec ces animaux. Alors, donc, pour comprendre ces mesures qui ont été prises en vue de limiter les effets d'un virus qui émerge des animaux, je me suis donc rattaché à je voulais admettre la personne là qui arrivait.
Oui, il faut appuyer sur Admettre.
Voilà, c'est ça.
Merci.
Voilà. J'ai bénéficié donc des recherches qui ont été menées par un groupe d'anthropologues qui se rattachait de l'anthropologue Paul Rabineau, qui est décédé en avril. Donc, anthropologue inspiré par Michel Foucault, les recherches sur la biopolitique, et qui identifie à la fin des années 90 l'émergence d'une nouvelle norme qu'on appelle de biosécurité, qui consiste à contrôler la circulation du matériel biologique dans tous les lieux où justement ce matériel biologique devient dangereux. Donc ça peut être les laboratoires, les fermes, les frontières, où il y aurait des espèces invasives qui circulent. Et dans donc ces mesures de biosécurité, il y a une injonction qui apparaît, c'est qu'il faut se préparer aux effets catastrophiques de ce matériel biologique. Alors, donc ce groupe d'anthropologues, notamment donc Andrew Lakoff et puis Stephen Collier, ils ont un livre qui va sortir prochainement, qui tire un peu les résultats de toutes ces recherches, repèrent que l'idée qu'il faut se préparer à l'émergence d'un super pathogène, hein, qu'on trouve effectivement dans beaucoup de fictions américaines, mais aussi hongkongaises d'ailleurs, des années 90, en fait, cette idée vient du milieu de la défense civile aux États-Unis, au début de la guerre froide, où on se prépare non pas à une pandémie, mais à une attaque nucléaire, par l'Union soviétique. Donc il repère le transfert à la fin de la guerre froide d'un certain nombre de techniques pour justement limiter les effets d'une catastrophe nucléaire. Au moment où les risques d'une attaque nucléaire diminuent, on transfère ces techniques vers d'autres catastrophes possibles qui peuvent être donc des désastres naturels, donc des tremblements de terre, des ouragans. On pense à ces cyclones qui affectent régulièrement, de plus en plus régulièrement, la côte est des États-Unis, notamment pour Katrina, qui a été vraiment un désastre pour la défense civile aux États-Unis. Ouragans, tremblements de terre, inondations, mais aussi donc épidémies. Et puis ça peut même aller jusqu'aux effets du changement climatique. Quand les effets du changement climatique produisent des événements, ce qu'on appelle des événements météorologiques extrêmes, dont les résultats sont imprévisibles. Donc, ce qui montre, c'est que dans toutes ces différentes menace, que ce soit donc l'attaque nucléaire ou l'explosion nucléaire d'une centrale, ou bien voilà, les catastrophes naturelles, ou bien les épidémies, ou les attentats terroristes aussi. Donc ce sont des événements qui peuvent se produire n'importe où, n'importe quand, et qui ne sont donc pas prévisibles, mais que l'on peut imaginer donc en recourant à la fiction, et dont on peut limiter les dégâts en faisant comme s'ils avaient déjà eu lieu. Donc c'est une technique qui consiste à simuler l'événement pour en limiter les effets catastrophiques. Et donc ils mettent en contraste cette technique de préparation aux catastrophes avec une technique qu'on connaît beaucoup mieux en Europe, puisque c'est le fondement de l'État-providence, qui est la prévention des risques, c'est-à-dire que face à des événements dangereux, on va faire des calculs de probabilité et on va répartir les risques de ces événements en fonction des populations qui sont affectées dans des territoires. Donc voilà, ils font une généalogie du risque, enfin de la prévention des risques, et une généalogie de la préparation aux catastrophes. Bon, je ne vais pas lire toutes les cases de ce tableau que j'emprunte à Lakoff, mais ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est l'idée que la prévention des risques, donc effectivement, elle commence au XVIIe siècle avec les assurances des bateaux qui partent pour la conquête du Nouveau Monde. C'est l'origine, l'étymologie même du terme de risque. Et puis, elle est élargie au XIXe siècle avec la prise en compte des maladies, des problèmes d'héritage, de transmission de propriété, et puis des accidents industriels. Donc c'est vraiment toute la généalogie du risque qui a été très bien établie par Beck, Eval, etc. La préparation aux catastrophes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire ça apparaît dans un petit groupe d'experts qui anticipent une attaque nucléaire, et puis ça s'élargit à la fin de la guerre froide. Et effectivement, de même que calculer la probabilité d'événements incertains suppose toute une histoire des technologies qui a été très bien faite par Hacking, par Daston, etc. Ben de même, se préparer à un événement catastrophique par l'imagination implique des techniques, des technologies dont il faut faire la généalogie et, pour ma part, l'ethnographie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est voir comment ces techniques de préparation aux catastrophes ont été appliquées dans le contexte du sud de la Chine, et notamment donc, des tensions entre le continent chinois, enfin, ce qu'on appelle la Chine populaire, puissance émergente de cette nouvelle phase du capitalisme des années 70-80, et ces territoires qui sont situés à ses marges, avec toute une économie de l'information, de la communication, et qui deviennent des sentinelles pour les menaces qui apparaissent dans ce continent chinois. Et c'est ce qui fait que l'alerte à la pandémie qui est lancée par des biologistes américains quand ils voient Ebola en Afrique centrale est relayée par des scientifiques australiens dans les années 1970, lorsqu'ils comprennent que la colonie britannique de Hong Kong peut être un de ces lieux d'information sur les risques pandémiques, sur les risques de pandémie, sur l'émergence des pandémies dans le sud de la Chine. Donc moi j'ai travaillé effectivement avec cette équipe de biologistes, je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est une photo donc, qu'on trouve au musée d'histoire de la médecine de Hong Kong, parce que c'était les héros du SRAS. Donc Malik Peris, qui est un chercheur du Sri Lanka, Guani, qui est un chercheur chinois, et Kwaku Kuen, qui est hongkongais, ont tous les trois identifié donc, le coronavirus du SRAS, son passage par les civettes masquées des marchés de Chine et son réservoir chez les chauves-souris. Mais ils ont pu faire ça parce qu'ils avaient été formés par des Australiens dans les années 90 pour travailler sur la transmission oiseaux, porcs, humains dans les virus de grippe. Donc il y a eu un transfert de compétences dans la surveillance des zoonoses de la grippe aviaire vers le SRAS, qui les a amenés donc à déclarer en 2003, donc Shortridge, c'était le fondateur du département de microbiologie de l'Université de Hong Kong, donc un Australien dans les années 70, et il a déclaré avec les deux découvreurs du SRAS, Peris et Guan, les études sur l'écologie de la grippe menées à Hong Kong dans les années 1970, où Hong Kong a joué le rôle de sentinelle pour la grippe, ont indiqué qu'il était possible pour la première fois de faire de la préparation à la grippe au niveau aviaire. Donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que préparer les pandémies en impliquant les oiseaux, alors qu'aux États-Unis, on s'est beaucoup préparé à une attaque de variole dans le métro de New York ou à l'arrivée d'Ebola par des singes dans une animalerie. Mais on ne s'était pas préparé à ce que les oiseaux apportent des virus pandémiques au reste du monde. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé à Hong Kong entre 97 et... Enfin, disons, plutôt entre 1972, 97 et 2003. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette généalogie, c'est que le terme sentinelle fonctionne en quelque sorte à trois niveaux. D'abord, la sentinelle, c'est effectivement un territoire dans lequel on perçoit les menaces environnementales. Donc un petit territoire très connecté avec une liberté d'expression comme l'était Hong Kong accroché au continent chinois, mais comme pouvait l'être aussi Taïwan, par exemple. Les sentinelles, c'était aussi... alors, attendez, là, je vais un petit peu vite. Voilà. Les sentinelles, c'était aussi... des volailles non vaccinées dans les fermes. Ça, c'est le seul endroit où on a utilisé cette technique. Seul endroit au monde, Hong Kong était le seul endroit où on utilisait cette technique pour détecter la grippe aviaire. C'était donc à l'entrée des fermes, des volailles non vaccinées qui mouraient ou qui étaient séropositives pour des virus de grippe qui commençaient à se disséminer dans l'élevage. Donc ça permettait de clore la ferme, souvent d'abattre les volailles, mais de lancer l'alerte pour éviter que le virus se promène dans les fermes avoisinantes et puis ensuite sur les marchés, parce que ça oblige à tuer toutes les volailles sur tout le territoire. Et en 97, par exemple, on a tué 2 millions de volailles à Hong Kong. Et puis donc les sentinelles, c'est un système de surveillance où on va régulièrement prélever des canards, des oies sur les marchés du sud de la Chine. Et puis, d'une certaine façon, les chauves-souris ont servi de sentinelles. Et puis, donc, quand je disais qu'il y avait un troisième sens, c'était les cellules sentinelles. Donc, ça, c'est la couverture du livre français, chez Zone Sensible. Et c'est justement une cellule très sensible parce qu'elle a la capacité de se porter en première ligne du système immunitaire vers les pathogènes, enfin vers les microbes, pour en capter l'information et avoir une réaction immunitaire adaptée qui permet de cohabiter avec le microbe, comme on le fait avec 95% des microbes qui nous arrivent. Et en fait, l'hypothèse notamment de Peris pour expliquer que le SRAS et le H5N1 soient si mortels, et ça marche aussi pour le SARS-CoV-2, de la COVID-19, c'est que ces cellules sentinelles sont contournées par des virus qui viennent d'autres espèces animales. L'hypothèse, c'est même que ces pathogènes arrivent à leurrer les sentinelles et donc rentrent dans le système immunitaire en quelque sorte plus profond, qui est l'immunité innée. Et ça, c'est une immunité beaucoup plus grossière, qui, en gros, face à un pathogène, n'a qu'une seule possibilité de réponse, donc n'a pas la souplesse et la connectivité de la cellule sentinelle. Et donc, l'hypothèse, c'est que le système immunitaire inné va surréagir à un pathogène qu'il ne reconnaît pas en déclenchant beaucoup trop de signaux d'alerte. Et donc, l'organisme va s'étouffer de tous ces signaux chimiques, ce qu'on appelle la tempête de cytokines, qui est effectivement ce qui explique beaucoup de décès du Covid-19 dans la deuxième semaine d'infection. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse centrale du livre, c'est que si les sentinelles sont leurrées par les pathogènes, l'organisme va surréagir aux pathogènes, et donc la sentinelle doit avoir une réponse adaptée aux microbes, c'est-à-dire capter l'information du microbe, et donc c'est très proche de ce que les anthropologues ont étudié dans les relations de prédation, de relations entre le prédateur et sa proie, où il s'agit de prendre le point de vue de sa proie pour l'attraper et se nourrir de sa substance. Et donc le terme de leurre qui est employé pour les cellules sentinelles est assez intéressant parce que c'est justement quand le chasseur est leurré qu'il va avoir une mauvaise réaction qui peut déclencher des phénomènes catastrophiques. Voilà un peu le cadre dans lequel j'ai réfléchi à tout ça. Alors en ce sens, donc, les sentinelles se distinguent des lanceurs d'alerte qui sont une autre problématique. Vous avez donc à la fois Li Wenyang qui est ce docteur chinois ophtalmologue de 32 ans qui a alerté les autorités de Wuhan, qui a été blâmé et qui est mort lui-même en février du Covid-19. Et puis Didier Raoult qui lui a alerté sur la non-dangerosité du pathogène et qui est devenu une espèce d'icône en France parce que justement il s'opposait, il a eu un rôle inverse du docteur Li Wenyang. Il disait ce n'est pas grave, on vous dit que c'est grave mais ce n'est pas grave, et donc dans les deux cas on a des formes de sacralisation de ces figures parce qu'ils s'opposent justement au consensus ambiant. Mais donc alors que le lanceur d'alerte est toujours dans cette ambiguïté de savoir son alerte va faire consensus, s'il va réussir à produire une représentation publique du risque. Ça, c'est ce qu'a très bien montré Francis Château-Renault avec Didier Torny dans leur livre « Les sombres précurseurs ». Donc cette question de la réalité de la représentation du risque portée par le lanceur d'alerte et donc la nécessité d'agréger beaucoup de personnes autour de leur alerte, les sentinelles ne sont pas dans ce problème-là. Les sentinelles sont plutôt dans cette question de savoir quelle est quelle est la meilleure façon de capter l'information d'un pathogène pour éviter qu'elle ne déclenche une inflammation, en quelque sorte. Et donc c'est un problème assez différent. Et c'est aussi assez différent de toute la problématique des signaux faibles qui a été beaucoup mobilisée autour du Covid-19 et qu'on trouve dans pas mal de recherches sur les menaces environnementales. C'est l'idée que avant qu'une menace soit véritablement catégorisée, elle fait l'objet de tout un ensemble de signaux qui sont captés par des individus, mais aussi parfois par des non-humains. On a entraîné des chiens à respirer, à sentir l'odeur du Covid-19, donc de façon beaucoup plus efficace que les tests. On a mesuré la présence du Covid-19 dans les égouts. Donc voilà, ça c'est assez différent de la sentinelle. La sentinelle, c'est vraiment l'usage d'un non-humain pour percevoir les signes avant-coureurs d'une maladie qui affecte les humains et ainsi en limiter les effets catastrophiques. Donc une relation que je qualifie de prédation et pas de sacralisation comme dans le signal d'alerte, ou pas d'augmentation d'intensification d'un signal faible. Alors la deuxième technique de préparation que j'ai étudiée, c'est la simulation. Donc je parlais du fait que anticiper une pandémie, ça consiste à simuler par exemple une attaque à la variole dans le métro de New York ou de Tokyo. Mais il y a aussi un autre usage de la simulation qui consiste à représenter la pandémie dans des bases de données de façon à jouer sur les possibilités de la pandémie. Alors il y a beaucoup de jeux électroniques qui se sont faits là-dessus, où il s'agit de distribuer des masques, des vaccins en fonction de la façon dont la pandémie va évoluer. Mais il y a aussi des jeux très sérieux que font les virologues eux-mêmes. Quand ils prennent les séquences de virus, ils les mettent dans des logiciels et ils arrivent à reconstruire les arbres d'évolution qui leur permettent de voir si la nouvelle forme du virus est très différente des précédentes, plus dangereuse. Ça a été notamment fait pour la grippe avec les franchissements de barrières d'espèces, mais ça a été fait pour le SARS-CoV-2 quand le virus passait d'un pays à un autre avec des formes de létalité assez différentes. Et voilà, ça c'est les formes de simulation plus réelles qui consistent à recruter des acteurs pour leur demander de jouer soit des patients soit des soignants. Donc ça peut être dans un hôpital, ça peut être dans un aéroport ou un marché. J'ai utilisé le concept de rituel pour décrire la façon, c'est tout un travail qu'on a fait avec Sandrine Revet, pour décrire la façon dont ces simulations permettent de produire le désordre dans l'ordre, en quelque sorte, ou l'extraordinaire dans l'ordinaire, et faire que le caractère catastrophique de l'événement ne suscite plus la panique, mais au contraire une espèce de réaction normale, hein, donc développer des capacités d'anticipation, par exemple, dans le personnel hospitalier. Alors, bien sûr, pour que la simulation fonctionne, il faut que tout le matériel sanitaire soit disponible, et on a eu beaucoup de controverses au début de la pandémie de Covid-19 sur le fait qu'il n'y avait pas assez de masques et que le personnel hospitalier n'avait pas... On leur avait dit, vous verrez, un jour, la pandémie arrivera, mais on ne leur avait pas dit qu'il n'y aurait pas de masques, et donc les conditions de la simulation n'étaient pas totalement réalisées. La troisième technique de préparation, c'est le stockage. Stockage prioritaire. Alors justement, le stockage de masques, ça c'est une mesure qui a été prise vraiment à la fin des années 90. Il y a toute une histoire du masque sanitaire, hein, qui a été bien étudiée au cours des deux dernières années, qui remonte au masque chirurgical inventé en France au 19e siècle, popularisé par un médecin chinois en Mandchourie en 1910, repris par les Américains pendant la grippe espagnole en 1918. Et puis ensuite, avec le SRAS, le masque devient vraiment un objet de la vie quotidienne, parce que ça permet aux citoyens de se protéger contre toutes sortes de pollution environnementale, enfin atmosphérique. Mais donc, l'idée qu'on peut stocker des masques, ça commence dans les années 70, où on anticipe une pandémie de grippe, en se disant, finalement, il faut des outils prioritaires, un peu comme on stockait des capsules d'iode s'il y avait une catastrophe nucléaire. Donc on stockait des masques, on stockait aussi des vaccins. Donc contre la grippe, c'était très important parce qu'il fallait des vaccins qui soient adaptés à plusieurs souches. Et puis on stockait aussi des antiviraux. Donc là, pour le Covid-19, il n'y avait pas de traitement. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette controverse sur la chloroquine. Donc toute cette question du stockage avait fait l'objet de beaucoup d'investissements. En général, un plan de préparation aux pandémies, justement, prévoit où seront stockés les masques, les vaccins et les antiviraux. Et donc, effectivement, on a découvert que le stockage allait un peu à l'encontre d'une autre règle des sociétés néolibérales, qui est la gestion des flux, l'austérité budgétaire. Et il faut effectivement beaucoup d'investissements pour entretenir ces stocks, pour les renouveler. J'ai tout un chapitre sur le stockage où je parle beaucoup de Taïwan, parce que Taïwan est à ma connaissance la seule société où le renouvellement des stocks de vaccins et de masques faisait l'objet de discussions au Parlement, parce que Taïwan est une société chinoise démocratique. La question du coût d'incinération des vaccins et des masques, la question de savoir si ça allait être produit par des entreprises publiques ou des entreprises privées, tout ça a été discuté publiquement. À la différence des États-Unis ou des pays européens, où c'est vraiment des autorités administratives et souvent même militaires, hein, qui décident de ces formes de stockage. Alors, j'ai un peu joué sur les possibilités de la langue anglaise, puisque le livre a été écrit en anglais et d'abord paru en anglais. J'ai opposé au stockage prioritaire, donc stockpiling, donc l'idée de vraiment ranger ces biens prioritaires pour qu'ils soient distribués aussi à des publics prioritaires, des infirmiers... j'ai opposé à ça une autre forme de stockage, qui est le stockage des données. Donc en anglais, c'est storage, ou on peut appeler ça stockage prioritaire et stockage ordinaire. Et ça, c'est ce dont m'ont beaucoup parlé les virologues, c'est l'idée qu'il faut conserver le plus grand nombre possible d'échantillons de virus, pour que quand un nouveau virus de grippe ou de SRAS apparaît, on puisse le comparer aux formes existantes. Et ça permet justement de mesurer sa nouveauté, sa dangerosité, de tracer les beaux arbres d'évolution qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, il y a un coût du stockage, hein, qui est l'entretien des serveurs sur lesquels les bases de données sont conservées, l'entretien des réfrigérateurs aussi, tout ce qu'on a appelé avec des collègues une cryopolitique, c'est-à-dire une gestion de la vie dans le froid, cryopolitique des virus et des vaccins aussi qui sont conservés dans le froid. Donc je me suis beaucoup intéressé à ces technologies de conservation aussi, parce que je m'intéressais au même moment à la conservation dans les musées. Et puis il y a une troisième forme de stockage qui m'a intéressé, c'est ce que j'appelle le stockage pathologique. Et le terme en anglais pour ça, c'est hoarding, c'est ce qu'on retrouve dans des sites archéologiques où il y a des grandes accumulations, souvent ostentatoires, de consommation ostentatoire, dans les premières sociétés étatiques, où, voilà, pour montrer ses richesses, on accumule des biens, notamment dans les tombes des rois. Et on peut dire que, les archéologues disent souvent que ces formes d'accumulation qu'on trouve dans les premières sociétés à État, avec la société capitaliste, sont devenues donc des formes ordinaires. On a vu donc au début de la pandémie des formes d'accumulation de papier toilette, on a vu des formes d'accumulation de masques. Et ce qui m'intéresse, c'est justement qu'est-ce qui fait la rationalité du stockage. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur des autorités de santé publique qui achetaient des masques et des vaccins pour une pandémie qui n'aurait peut-être jamais lieu. Et ça, c'est toute la question de la sentinelle qui anticipe une catastrophe qui n'arrive pas. Finalement, on leur a reproché de ne pas avoir conservé ou renouvelé leur stock de masques. Donc la question de la rationalité du stockage était très intéressante et rejoint, à mon avis, des questions vraiment centrales pour les anthropologues. De la dépense, du caractère ostentatoire de la consommation. Voilà, alors ça m'amène à ce tableau qui conclut le livre, puisque donc la deuxième partie du livre est vraiment construite sur ces trois S, les trois techniques de préparation, la sentinelle, la simulation et le stockage. Et donc pour chacune de ces techniques, j'ai distingué une forme que j'appelle synergétique, c'est-à-dire justement une forme assez adaptée à cette dimension du virus ou du microbe qui est de changer de forme et qui, donc il faut prendre sa perspective pour anticiper les différentes trajectoires qu'il va prendre dans les environnements qu'il va infecter. Donc la sentinelle, elle a, comme on l'a vu, cette capacité à prendre le point de vue du virus et si elle échoue à ce moment-là, il y a ces formes beaucoup plus excessive de réaction que j'appelle sacrificielle, où là on restaure l'ordre, on abat les volailles, parfois même on sacrifie les lanceurs d'alerte. C'était le cas avec le docteur Li Wenliang. Et donc la sentinelle, je dis que ça pose le problème de la vérité, c'est-à-dire de l'adéquation entre le signal qu'on envoie d'une catastrophe et puis la réalité de ce qui se passe, hein. Et effectivement, Pendant longtemps, je travaillais sur des sentinelles dont on considérait qu'elles lançaient des fausses alertes. Et puis là, aujourd'hui, on voit que l'alerte avait une part de vérité. Mais cette question de la vérité et de la fausseté, donc je la résous ou je l'aborde à travers la notion anthropologique de mythe, hein, au sens d'un récit sur l'origine de l'humanité dans un temps où elle n'était pas si éloignée des animaux, de façon à repérer donc les continuités et les discontinuités entre les espèces. Alors, de même pour la simulation, j'oppose la simulation là aussi comme une capacité à prendre le point de vue du microbe ou de l'animal. Dans certaines simulations que j'ai analysées, il y avait des animaux domestiques, par exemple, qu'il fallait évacuer. Donc il y avait cette capacité donc dans l'anthropologie des chasseurs, la simulation est justement étudiée comme une technique pour prendre le point de vue de l'animal. Je pense par exemple au travail de Villerslev sur les sociétés de chasseurs de Sibérie. Donc c'est pour ça que j'inverse un peu la formule de Foucault qui définissait le pouvoir souverain comme un pouvoir de faire vivre et laisser mourir, en disant que là le pouvoir prédateur, c'est faire l'animal et différer la mort. Donc la simulation, son problème, c'est la réalité, c'est-à-dire faire que la catastrophe devienne réelle. Et ça, c'est vraiment le problème du rite, introduire du réalisme dans la simulation. Et puis donc le stockage, j'ai distingué deux formes, le stockage ordinaire et le stockage prioritaire. Le stockage ordinaire apparaît beaucoup plus rationnel que le stockage prioritaire, puisqu'il ne donne pas lieu à ces consommations, ces formes d'investissement. C'est vraiment un stockage de chasseur-cueilleur, je dis dans le livre, puisque c'est un stockage qui permet d'introduire de l'ordre dans des virus qui viennent de plein d'espèces différentes. Donc je compare ça aussi un peu à la pensée sauvage chez Lévi-Strauss. Mais en fait, les deux formes sont rationnelles, rationnelles dans des formes de gouvernementalité différentes. Il y a effectivement, dans le stockage prioritaire, une forme de consommation ostentatoire, c'est-à-dire un État qui montre qu'il est, il est prêt à la pandémie. Il y a toute une dimension un peu de compétition entre les États qui se préparent aux pandémies. Regardez, j'ai plus de vaccins que vous, j'ai plus de masques que vous. Et donc, j'analyse. Donc, le problème du stockage, c'est un problème d'équité. Est-ce qu'on distribue de façon juste les vaccins? Est-ce que les différents États ont des masques en fonction de l'exposition de leur population à la pandémie? Bien sûr que non. Mais comment on règle ce problème d'équité? Et en fait, ce problème d'équité, on peut l'analyser à travers donc l'anthropologie de l'échange, puisque ce sont des formes d'échange entre les sociétés. On s'échange des masques, des vaccins. Et en fait, ultimement, c'est aussi une sorte d'échange asymétrique entre les hommes et les autres, entre les humains et les non-humains, puisque les vaccins sont souvent fabriqués à partir d'autres animaux. Donc voilà, toute la dimension inégalitaire et déséquilibrée de ces échanges de stocks prioritaires, je me demande comment ça repose ultimement sur des prélèvements qui sont faits par les humains sur des animaux. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il est assez tard, et puis c'est vraiment le tableau sur lequel je conclue le livre, et donc je serai prêt à prendre vos questions.